Deux invités, deux journalistes, deux enquêteurs invités ce matin. Bonjour Christian Chesneau et Georges Malbruno.
Bonjour.
Spécialiste des questions internationales, Christian Chesneau à Radio France et Georges Malbruno au Figaro. Votre dernier livre écrit en commun a pour titre « Qatar Papers » paru chez Michel Lafon avec quelques révélations sur l'influence du richissime Qatar en Europe et en France en particulier. En finançant des mosquées, des écoles et autres centres d'influence islamique. On va d'abord dissiper un malentendu, Georges Malbruno. Ce livre, ce n'est pas un livre critique sur la religion musulmane au Qatar, c'est d'abord un livre politique et géopolitique sur le financement du Qatar. C'est pas la même chose.
Exactement, ça n'est pas du tout un livre, un brûlot contre l'islam. C'est un livre qui est une mise en garde contre l'influence du prosélytisme de Qatar Charity, donc une ONG, la plus importante ONG qatarienne, qui dispose de relais en Europe, et c'est la mise au jour d'un réseau de financement de plus de 140 mosquées. Donc voilà, on n'est pas dans l'anti-islam primaire, ça n'est pas non plus du financement de terrorisme, on y reviendra, tout ce qui est fait légalement, mais de manière extrêmement sophistiquée, on va probablement en parler.
Exactement. Christian Chesneau, au départ, il y a donc cette ONG qatarienne, Qatar Charity, elle est liée au sommet de l'État, elle est très riche. Quelle est sa vocation originelle?
En fait, la vocation originelle, c'est une ONG comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, une ONG classique qui aide des réfugiés, des gens victimes de tremblements de terre, donc qui aide aussi au développement en Afrique, en Asie. Alors nous, ce qu'on découvre, et ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a l'autre versant de cette ONG classique, qui intervient dans 70 pays, il y a ce versant, j'allais dire, de prosélytisme religieux, de financement, de centres islamiques, de mosquées, d'écoles, etc., dans le monde entier, et notamment en Europe. Il y a un programme spécial en Europe qui s'appelle El Reis, donc 140 mosquées, centres islamiques en Europe, avec des sommes considérables, on parle de dizaines de millions d'euros, plus de 90 millions en Europe, dont 30 millions en France, et ça, c'est peu connu, c'est-à-dire qu'on connaissait le soft power, l'influence du Qatar dans l'immobilier, le sport, les médias, l'économie, ça c'était très connu, mais ce qu'on ne connaissait pas, et là on lève le voile dans le livre, sur cette influence religieuse, parce que traditionnellement, le marché de l'islam en Europe était occupé par les Saoudiens, l'Arabie Saoudite et la Turquie.
Les montants dont vous parlez, effectivement, l'argent coule à flot, les montants dont vous parlez, ces financements sont absolument colossaux. Vous soulignez d'ailleurs que vous en êtes stupéfait. Mmh. Vous avez essayé d'entrer en contact avec Qatar Charity, vous n'avez pas pu, c'est ça, mais vous avez vu une petite affiche tout à fait explicite qui récapitule les projets financés dans le monde.
Alors évidemment, au Qatar, on a trouvé porte close sur place parce que l'ONG ne parle pas, ne donne pas d'interview. On s'est quand même rendu sur place, j'allais dire à l'improviste. Et dans le hall d'entrée de la Qatar Charity, effectivement, il y a une grande map monde, une carte du monde sur le mur à l'entrée. Et effectivement, il y a bien marqué 140 projets en Europe.
8148 mosquées à travers le monde.
Dans le monde, voilà. Donc c'est un projet mondial. C'est pas simplement on finance une ou deux mosquées ici et là. C'est vraiment, il y a un projet qui est global, qui est sophistiqué, qui est professionnel.
Et donc il y a tout de même un peu de transparence, même si tout n'est pas complètement transparent, ce financement du Qatar en Europe, Georges Malbruno. Ce financement souvent opaque, qu'est-ce qui n'est pas toujours transparent?
Ce sont les montants, justement. Les projets étaient connus, par exemple, des services de renseignement, globalement, mais ce qui n'était pas connu, c'est le montant. C'est le montant, parce que tout l'intérêt de ces documents, au-delà des montants, des lieux, des centres, c'est qu'on a les dialogues internes, on a les intentions réelles.
Mais les banques se posent aucune question?
Non, mais Qatar Charity peut transférer 500 000 euros à Mulhouse sans c'est même pas illégal.
Une banque qui voit arriver une telle somme.
Effectivement, les banques maintenant font ce qu'on appelle de plus en plus des déclarations de soupçons auprès de Tracfin, et effectivement maintenant il y a une coopération de plus en plus importante des banques, mais
Tracfin, on va dire ce que c'est. Tracfin, c'est l'organisme au sein
le service de renseignement financier,
lutter contre le blanchiment et les fraudes d'argent.
Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les échanges de mails, on voit dans les demandes que font les associations à Mulhouse, à Clermont-Ferrand, etc., ce qu'on veut. Et puis de l'autre côté, on voit ce que Qatar Charity dit, il faut renforcer la culture islamique des musulmans en Europe, il faut axer les efforts sur l'éducation. On révèle que Qatar Charity a voulu quand même racheter le lycée Averroès, qui est le premier lycée musulman sous contrat à Lille.
Mais là aussi, c'est étonnant l'exemple que vous donnez précisément de ce lycée, parce qu'il y a eu une inquiétude du rectorat. Il a même préconisé un conseil pédagogique qu'on n'a jamais vu. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui était prévue. Elle n'a pas eu lieu. Donc c'est quand même étonnant.
Mais c'est très étonnant. Mais on est, comme on l'a vu en contactant les maires à Mulhouse, à Poitiers et ailleurs,
à Lyon.
On ne veut pas de problème. On ne veut pas de problème, donc on ne sait pas ou on ne veut pas savoir. On ne va pas voir le renseignement territorial, alors on dit on ne sait pas nous, d'où ça vient. Mais je pense qu'ils ne veulent pas savoir.
Et c'est la question tout de même du clientélisme localement qui est évoqué à travers votre livre. Je pense à Mulhouse, l'ancien maire Jean-Marie Bockel qui s'est lui-même demandé s'il n'était pas allé un peu trop loin en donnant son feu vert à cette mosquée cathédrale. En quoi est-ce qu'il serait allé trop loin et est-ce qu'il est vraiment allé trop loin?
Parce qu'au début, souvent les maires, on en a rencontré plusieurs, de bonne foi d'ailleurs, disent on va aider les musulmans qui ont besoin de mosquées. C'est, ça, il faut le dire, on a fait une enquête de 2 ans et souvent, ils prient dans des lieux indignes et donc il y a besoin
dans
de mosquées.
Dans des caves ou dans la rue.
Voilà, donc les maires se disent on va pas laisser les gens prier dans la rue ou dans des caves. C'est quand même la deuxième communauté, deuxième religion de France.
Et il y a des notables locaux qui sont musulmans.
Voilà. Qui sont dans les conseils municipaux, donc c'est normal. Sauf que les projets prennent de telle ampleur, c'est-à-dire que Mulhouse c'est quand même
énorme.
26 millions d'euros. C'est le plus grand centre islamique d'Europe qui va toucher un bassin de population de 200 000 personnes entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Donc là, évidemment, ça prend des proportions très importantes.
Ce qu'il faut expliquer peut-être aussi, c'est que derrière une cathédrale comme celle-là, une mosquée cathédrale comme celle-là, il y a aussi quelques dizaines d'associations qui sont liées à ça.
Exactement. Et Mulhouse, par exemple, c'est le symbole même de ce qu'on appelle la mosquée centre de vie. Vous avez un espace réservé aux hommes pour prier, un espace réservé aux femmes. Vous avez une piscine qui est prévue, vous avez un sauna, vous avez des écoles, effectivement, pour apprendre l'arabe, pour la récitation du Coran. Vous avez une morgue. Et donc là, on est dans la logique, dans la conception, des frères musulmans, l'islam...
Qui sont pas très nombreux d'ailleurs, les frères musulmans.
Non, qui sont pas nombreux. L'islam doit accompagner l'individu musulman de la naissance jusqu'à la mort. Et donc là, c'est là où ça pose un problème. On parlait de Mulhouse tout à l'heure, Jean-Marie Bockel. C'est un immense centre de vie. Ils ont le projet encore de racheter une parcelle de terrain autour. Et donc, si vous voulez, là, on n'est plus dans le cultuel, on n'est plus dans la mosquée où on va prier, on est dans la mosquée centre de vie, parfois micro contre-société. Il y a aussi parfois à Strasbourg, ils ont essayé d'acheter un immeuble où ils y installeraient une salle médicale.
On est au cœur du sujet ici, parce qu'effectivement, le financement du Qatar dans des mosquées, dans des centres, va influencer non plus les lieux de culte, mais les lieux culturels d'une ville. L'exemple d'associations de femmes musulmanes avec derrière, pas des prêches, mais en tout cas des conseils, notamment sur le rôle des femmes dans leur mariage. Et ça influence forcément la communauté.
Oui, nous, on a repéré d'ailleurs un financement à Bagnolet où le Qatar Charity a donné de l'argent pour une association de femmes européennes pour acheter un immeuble. Donc, qui a acheté, on a été vérifié sur place. Et l'idée, c'était de
faire... Vous êtes allé questionner les gens qui sortaient de l'immeuble en disant, vous savez que vous financez les frères musulmans.
C'était... Oui, exactement. C'est la question qu'on leur a posée à un monsieur qui est sorti. On lui a dit, vous savez qui est le propriétaire de l'immeuble? Il a dit, oui, c'est une association de femmes musulmanes. Je lui dis, mais après tout, les musulmans ne reçoivent pas d'argent public. Et je lui dis, très très bien. Je lui dis, mais vous savez que cette association, si elle était liée aux frères musulmans, elle me dit, là, ça m'ennuierait un petit peu. Donc, je crois qu'aujourd'hui,
Rappeler le dogme des frères musulmans, c'est un islam très conservateur.
Conservateur et intégral, encore une fois, c'est de la naissance à la mort, et c'est surtout un islam politique. C'est-à-dire que c'est pas simplement un islam qui se limite à la mosquée, c'est-à-dire qui déborde dans la société.
Mais pour revenir au lycée Averroès, est-ce qu'on peut dire, parce qu'il est ouvert aux non-musulmans aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des dérives intégristes, par exemple, dans ce lycée?
Il y a eu quelques dérives d'antisémitisme. Mais c'est un très bon lycée. Il a été classé parmi les meilleurs lycées de France il y a quelques années. Simplement, comme nous disait Homero Maronjou, qui est un ancien frère musulman, qui connaît bien le sujet, il y a une petite musique de fond. Et puis, il y a effectivement un certain nombre d'enseignants qui sont proches des frères musulmans. Donc, on est dans la mouvance. les personnes musulmanes, français de confession musulmane, qui vont prier dans ces mosquées, cathédrales, etc., ne sont pas frères musulmans, évidemment, mais ils vont prier dans les endroits où, justement, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'offres pour les musulmans, pour la jeunesse, pour apprendre l'arabe, puisqu'il y a un manque d'écoles françaises. L'enseignement de l'arabe a été marginalisé en France. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Cet arabe, il est appris dans les mosquées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut intensifier l'enseignement de l'arabe ailleurs. Donc voilà, on est dans une espèce de mouvance comme ça, dans un néo-islamisme. Quand on interrogeait les gens à Nasser Al-Kadhi à Mulhouse, voyons, on dit Nasser, est-ce que vous êtes frère musulman? On est tous frères musulmans, on est tous frères, etc.
Ils jouent sur la dénomination.
Quand même trouvé, et c'est ce qui est frappant aussi, beaucoup un peu de double langage quand même, parce que effectivement, quand on leur demandait, vous touchez du Qatar? Non. Pas du tout, pas du tout. D'où ça vient des fidèles. Et puis à un certain moment, on leur présentait les chèques, les virements bancaires. Et là, ils étaient exposés d'une certaine façon à leurs mensonges.
Il est 8h30 sur France Inter. Nos deux invités ce matin, Christian Chesneau, Georges Malbruno. Vous venez de signer Qatar Papers, comment l'émirat du Qatar finance l'islam de France et d'Europe. On vient de parler beaucoup de la France, mais il faut dire aussi...
Oui, un mot. Ce qui nous a stupéfait sur ce réseau, c'est évidemment, il y a des pays phares qui sont
l'Italie,
la France, l'Allemagne, mais...
L'Italie en tête.
On a trouvé des destinations d'investissement très étonnantes. Jersey, le Luxembourg,
le Pôle Nord,
même le Pôle Nord
en
Norvège.
Le Grand Nord,
Jersey, 400 musulmans à Jersey, près de 78 000...
800 000 euros.
800 000 euros de dépensés.
C'est quoi? C'est pour refédérer, oui.
C'est-à-dire, encore une fois, les Qatar Charity aident les minorités musulmanes en Europe. Et donc, pour qu'elles existent, pour qu'elles elles ne perdent pas leur valeur religieuse. Et donc, à chaque fois qu'une association va au Qatar, j'ai un projet de mosquée ici ou là, eh bien, souvent, le Qatar Charity paye. Mais, encore une fois, dans des lieux surprenants, en Pologne, en Ukraine, en Crimée, en Suède, même en Norvège, au Grand Nord, à Larvik et à Alta, ils construisent des mosquées. Parfois, ils transforment des églises en mosquées, etc. Donc, c'est un projet très étendu. C'est-à-dire que là, dans le livre, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Alors, à l'échelle locale, parfois ça ne veut rien dire, c'est une mosquée, un centre islamique anodin, mais quand on zoome arrière et on regarde la grande image de l'Europe, on se dit, là il y a un vrai projet, encore une fois, 140 projets, et on se dit, pourquoi ce pays, le Qatar, 200 000 habitants, qui n'a pas de légitimité religieuse, comme par exemple l'Arabie Saoudite pourrait l'avoir, fait tout ça.
Parce que, juste un mot, sur la religion au Qatar, c'est wahhabite et frères musulmans.
Voilà, c'est-à-dire que de tradition wahhabite, mais l'ADN...
C'est-à-dire wahhabite, c'est-à-dire
C'est-à-dire l'islam encore plus conservateur des Saoudiens, qui est vraiment l'islam, j'allais dire, du prophète, l'islam des origines, quoi.
Mais ça, le Qatar veut acheter de l'influence. Acheter de l'influence pour, encore une fois, peser sur ce marché de l'islam européen qui était occupé, préempté jusqu'à maintenant par le Maroc, l'Algérie, leur rival saoudien et puis la Turquie.
Quand Emmanuel Macron demande à l'émir du Qatar qu'il n'y ait plus aucun financement, en tout cas en France, sans qu'il ne le sache, et que l'émir répond, a priori, il a répondu oui, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut le croire?
Alors,
est-ce que ça sera le cas?
Est-ce qu'on peut le croire? Ce que disent les responsables des services français qui sont en contact avec leurs homologues qatariens, c'est qu'il faut exercer un maximum de pression sur le Qatar pour avoir un début de résultat. Et il y a eu effectivement depuis 2017, Emmanuel Macron et d'autres, avant les Américains avaient mis de la pression, pas les Français, pas Nicolas Sarkozy, pas François Hollande. Emmanuel Macron a pris conscience du danger de ce financement par des ONG d'activités islamiques en France. Et donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement Tracfin, le ministère de l'Intérieur, dans leur contact avec les Qataris, disent attention, Argenteuil, on a repéré un mécène qatarien qui a financer la moitié du budget de la mosquée. Parce que le réflexe souvent des Qatariens, d'ailleurs nous, quand on leur disait, mais vous financez Qatar Charity, finance des mosquées. Donnez-nous des preuves. Donc c'est la grande réponse du Qatar. Et donc là, les Français, et nous, on a essayé de...
Mais c'est ce que demande l'émir, c'est une liste, c'est ça, de toutes les organisations, de tous les centres.
On revient à Qatar Charity, à votre question tout à l'heure, c'est aussi assez commode de se retrancher pour l'émir du Qatar. D'ailleurs, Qatar Charity, qui rassemble l'argent des musulmans au travers de l'aumône, la zakat, qui est un des piliers de l'islam, et dire voilà, ce sont les fidèles musulmans qui versent leur obol pour aller financer.
Ouais, enfin, ce sont surtout mosquées. Les proches de l'émir Tamim qui financent.
Alors, effectivement, il y a ça aussi. Dans les documents, on a remarqué, on a découvert que la liste pour 2016 des principaux contributeurs, eh bien, c'est le bureau de l'émir, c'est des membres de la famille régnante. Donc, il n'y a pas de dissociation. Au Qatar, rien n'est indépendant.
Juste sur l'influence en France et la difficulté pour la France de financer des lieux de culte. Aujourd'hui, la plupart des mosquées sont gérées par des associations de loi 1901, à but donc non lucratif. Le but, ce serait de faire passer la gestion de ces immeubles par des lois aujourd'hui 1905, donc de laïcité, c'est ça le projet ?
Vous avez raison, la complexité, c'est qu'il y a un mélange des genres. Par exemple, à Décines, dans la banlieue de Lyon, vous avez une mosquée et le centre islamique, et tout ce mélange entre le culturel et le culturel. Le problème, c'est évidemment, on a cette loi de 1905 qui est très rigide.
Qui était prévue pour une révision, mais enfin, c'est passé au calendrier grec, si j'ai bien compris.
Et pour l'instant, ça sera en tout cas reporté.
À l'automne, voilà.
Au-delà de ça, je crois que ce que veut l'Élysée, hein, ce que veut Macron, c'est peut-être une traçabilité des fonds. C'est-à-dire ce qui a été fait en Italie. En Italie, par exemple, il y a un pacte qui a été signé avec les organisations musulmane en Italie, c'est-à-dire que vous, à tout nouveau projet de mosquée, vous devez déclarer les fonds. D'où vient l'argent? Et donc, ça serait peut-être dans le prochain loi, si vous construisez une mosquée, d'où vient l'argent? La traçabilité, la transparence.
L'Italie, c'est aussi des prêches dans la langue du pays.
Exactement. C'est-à-dire, parmi ce pacte, dans ce pacte, il y a le respect des valeurs républicaines, le droit de la femme, le droit de changer de religion, etc., les valeurs de la Constitution. Puis en dessous, vous avez tout un tas de points. Le prêche doit être en italien, l'imam doit être connu et référencé. Et puis cette référence au financement, parce qu'encore une fois, il y a quand même, c'est pas illégal hein, tous ces financements, mais c'est souvent sous les radars. Parfois, ça vient par des associations, et donc avoir une transparence pour enlever tous les fantasmes autour des mosquées, parce que le débat est quand même très hystérique. Et donc, il faut à un moment donné, et d'ailleurs, c'est l'intérêt des musulmans, d'avoir quelque chose de transparent, et comme ça, les gens, on sait d'où vient l'argent.
Parmi vos révélations, Patricia Martin, oui, Tariq Ramadan.
Tariq Ramadan, alors vous avez eu accès donc à l'enquête de Tracfin sur ses comptes bancaires. Il a été condamné, il faut le rappeler, à 8 mois de prison. Il est aujourd'hui assigné à résidence, mis en examen pour viol, agression sexuelle, violence et menace de mort sur un certain nombre de femmes. Là aussi, les sommes sont absolument extravagantes.
Oui, le Qatar, via la Qatar Foundation, qui est une institution qui a été lancée par l'épouse, la deuxième épouse de l'ancien émir, eh bien, lui octroyait un salaire de 35 000 euros par mois pour des conférences, pour des cours qu'il donnait là-bas.
Des transferts de sommes aussi, parce qu'il a pu s'acheter
deux
appartements.
Oui, il avait un compte en banque au Qatar, et il y a eu effectivement...
Des sommes impressionnantes.
Il a, entre le 1er juin 2017 et le mois d'octobre 2017, il a transféré 590 000 euros à partir d'un compte bancaire domicilié au Qatar à son nom sur un.
Donc c'est pas la peine de se cotiser pour lui payer ses frais d'avocat.
Est-ce que ça confirme ce qu'il dénie, ce qu'il dénonce? Est-ce que ça confirme qu'il est bien un influenceur des thèses wahhabites et des frères musulmans en Europe?
Alors, thèses wahhabites, non, mais les thèses frères musulmans, oui, même si lui n'est pas frère musulman, il n'a pas officiellement prêté serment, fait la baïa, etc. Mais il est, je dirais, la figure principale de ce courant de pensée qui dit, voilà, nous sommes français, nous sommes musulmans, français, nous voulons contribuer. Il ne s'agit même pas de s'intégrer, c'est-à-dire contribuer à la société, au débat. Et là, on en revient aux mosquées centres de vie, c'est-à-dire le but un petit peu de ces associations, là, c'est d'adapter la loi commune à leurs principes de l'islam global, c'est-à-dire avoir des horaires séparés dans les piscines pour les hommes et les femmes, que les filles puissent porter le voile à l'école, donc adapter la loi commune à leurs principes.
Et la question qui est en filigrane de ces nombreuses pages de ce livre, finalement, qui doit finalement s'adapter à l'autre? On se posera la question en lisant un dernier mot.
Oui, et puis pour signaler qu'il y aura un film, un documentaire qui sera
sur Arte
en prime time dans quelques mois.
On regardera ça, tiré de ce livre, Qatar Papers, sur Arte et... en livre, paru chez Michel Lafon. Merci beaucoup, Christian Chéneau, Georges Malbruno, d'être venu ce matin en parler sur France Inter.